cours de 14 juillet, de fête nationale pour nous ici en France, nous sommes invités à nous souvenir que nous sommes, en tant que chrétiens et chrétiennes, titulaires d'une double nationalité. Citoyens du ciel, déjà, et citoyens encore de notre pays. Cette double réalité s'impose à tout chrétien. Et on pourrait dire que Jésus lui-même n'a pas été exempt de cette double nationalité, même s'il était le Fils de Dieu venu sur terre. Jugeons-en. Sa naissance a eu lieu à Bethléem, en accomplissement des prophéties, mais aussi à cause de la décision de César Auguste, l'empereur, au sujet du recensement de toute la terre, qui conduisit Joseph et Marie à se rendre dans la ville de leurs ancêtres pour se faire inscrire. De plus, Jésus n'a pas refusé de payer les péages et autres taxes, dont celle du temple, qui lui était imposée, ainsi qu'à tout Israélite de son temps. Enfin, le procès de Jésus dans les derniers jours de sa vie terrestre a eu lieu à la fois devant le tribunal religieux, le Sanhédrin, mais aussi devant le tribunal pénal, celui des Romains, celui de Ponce Pilate, seul habilité à prononcer et surtout exécuter la peine capitale. Ce domaine de la vie publique, politique, est toujours un peu sensible dans les églises et par rapport à la vie spirituelle, car il n'est pas facile de se situer, pour nous, en nos temps démocratiques, où l'on peut avoir du mal à se soumettre au président et à la majorité que l'on n'a pas forcément élu. Il y avait moins de choix à l'époque de Jésus, où l'empereur exerçait un pouvoir absolu, sans partage, souvent tyrannique. La question des impôts, elle est universelle, dans le temps et dans l'espace. Et c'est sur ce plan de l'obéissance fiscale à une autorité d'occupation que Jésus est mis à l'épreuve dans le passage que nous venons de lire. La première chose que je fais remarquer, c'est que nous assistons dans cette scène à une alliance de circonstances entre les pharisiens et les hérodiens. Les pharisiens ne s'occupaient pas trop de politique. Ils se consacraient plutôt à la religion et à une vie spirituelle séparée. C'est le sens du mot pharisien, les séparer. Séparer des pécheurs, qu'ils soient juifs, mais surtout étrangers. Par contre, les Hérodiens, partisans du roi Hérode, s'occupaient plus de politique que de religion. Et ils étaient des défenseurs de l'identité et du particularisme juif, peu enclin à se soumettre à une autorité extérieure. C'est pourtant ces deux parties, aux préoccupations opposées, qui se rassemblent pour essayer de prendre Jésus au piège. Remarque complémentaire, leur question est ainsi formulée, est-il permis ? Je doute que César ait laissé la moindre marge de manœuvre au peuple juif occupé. Le tribut était imposé, il était obligatoire. On sent derrière cette manière de s'exprimer tout l'orgueil nationaliste juif, peuple réputé insoumis et frondeur, prompt à secouer le joug qu'on voulait lui imposer. On remarque aussi, quand on lit le texte, la flatterie utilisée pour essayer d'endormir la vigilance de Jésus et ainsi pouvoir mieux le prendre au piège. Même si leurs paroles sont justes objectivement, ils n'en croient eux-mêmes pas un mot. Mais Jésus n'est pas dupe de leur stratagème et il leur dit directement « hypocrite, hypocrite ». Clairvoyance jamais prise en défaut du Seigneur. Le piège que tendent les pharisiens et les hérodiens et de chercher à obliger Jésus à se positionner. Soit il se place du côté des Romains, dans une attitude qu'on pourrait appeler une attitude de collaboration, s'il dit qu'il est permis de payer le tribut à César, soit il se place du côté des Juifs et de leur tendance indépendantiste, s'il dit qu'il n'est pas permis de payer le tribut. Dans le premier cas, il se rend odieux aux Juifs, et dans le second, il se rend odieux aux Romains. Dans les deux cas, Jésus risque de sérieux ennuis, comment peut-il se tirer de ce piège? Choisir son camp, c'est se fragiliser, mettre en péril sa crédibilité et sa mission. Jésus va se tirer admirablement de ce piège, et les pharisiens et les hérodiens vont connaître la confusion. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. La réponse de Jésus va confondre ses interlocuteurs. Appuyé sur l'effigie présente sur la pièce avec laquelle on payait le tribut, la pièce appelée denier. Sa parole, devenue proverbiale, est remarquable non seulement par son à-propos, mais aussi par sa profondeur et les multiples significations qui s'y rattachent. Essayons de souligner les principales significations. La première. Jésus n'interdit pas formellement de payer le tribut, mais sa formule n'est pas non plus un commandement de payer le tribut. Il y a une sorte d'ambiguïté, d'ambivalence de sa parole. Il dépasse le problème du tribut pour faire référence à la monnaie elle-même et à celui qui figure sur cette monnaie qu'il a fait frapper par ses services, César lui-même. Puisque l'effigie de César et son inscription spécifique figurent sur la face du denier, alors rendez à César ce qui lui appartient. Il est donc licite de payer le tribut, puisqu'on le paie avec la monnaie de l'empereur. Non seulement il est permis de payer le tribut, mais c'est dans la logique des choses. Les exhortations au sujet du paiement des impôts et des taxes dans le Nouveau Testament, sous la plume de Paul ou de Pierre, vont dans le même sens. Citoyen de la terre, que je le veuille ou non, je suis contraint de m'acquitter des impôts et des taxes, et du tribut, même si ça a changé de nom, qui me sont imposés. Deuxième remarque que je fais sur le texte, cette parole de Jésus peut apparaître comme fondatrice de la laïcité, bien avant que celle-ci soit en question. En séparant ainsi le domaine de César de celui de Dieu, Jésus légitime la distinction entre le fait politique et le fait religieux. Et on connaît toutes les difficultés, les abus et les perversions des régimes théocratiques où les pouvoirs spirituels et temporels sont conjoints. L'alliance du sabre et du goupillon dans notre pays n'a jamais rien donné de bon. Les protestants de France sont bien placés pour en témoigner. Même si ultimement tout appartient à Dieu et rien n'échappe à son contrôle, il y a un domaine politique et fiscal que Dieu concède aux hommes et un domaine spirituel dans lequel l'être humain est appelé à servir Dieu. Troisième chose, César n'est pas Dieu. Ni le président de la République, ni le roi dans les monarchies, César n'est pas Dieu. Il n'est pas une divinité à adorer, comme il fallait le faire dans le cadre de l'Empire romain. Le culte de l'empereur était obligatoire, notamment au 1er siècle, celui du début de l'histoire de l'Église. On a voulu, vous le savez, forcer les premiers chrétiens à confesser César est Seigneur. Mais les chrétiens s'y sont opposés en disant, pour nous, il n'y a qu'un seul Seigneur. Jésus est Seigneur. Et cette confession de la seigneurie du Christ en a conduit beaucoup aux martyrs dans les cirques romains, livrés aux bêtes sauvages ou aux armes des soldats. La limite de la soumission aux autorités demandée par le Nouveau Testament se trouve là. Pas d'adoration d'un homme ou d'un pouvoir ou d'un système politique, le plus haut placé fut-il. Cela, c'est de l'idolâtrie. On n'adore que Dieu seul et son Fils Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même. Il y a César et il y a Dieu. Il ne faut surtout pas les confondre. Mais si César n'est pas Dieu, Dieu n'est pas César. Il n'y a rien de comparable entre les deux. Dieu ne se comporte pas en souverain absolu, tyrannisant les nations qui lui sont soumises. Il n'est pas cruel, ni arbitraire, ni injuste. Il ne règne pas par la terreur, mais par l'amour. C'est ce que Jésus a exprimé à plusieurs reprises, en exposant que les relations parmi les disciples et au sein du peuple de Dieu, du peuple des rachetés, n'avaient rien de commun avec les relations au sein des peuples humains. Amour, service et soumission mutuelle sont les valeurs à pratiquer au sein du peuple de Dieu. Jésus en a donné l'exemple suprême, en lavant les pieds de ses disciples. Dernière chose que je dis sur ce texte, il y a dans la parole de Jésus un appel, certes discret, un peu voilé, mais un appel réel à la conversion. De même que le denier romain porte l'effigie et l'inscription de l'empereur, l'être humain porte en lui-même l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, selon le récit de la création de Genèse 1 que nous avons lu tout à l'heure. Et tout homme est appelé à revenir à Dieu, à se convertir, à croire en Dieu pour vivre en communion avec lui. Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est de cette façon que l'on peut et que l'on doit rendre à Dieu ce qui lui appartient, ce qui n'appartient à personne d'autre, ni à l'empereur, ni à Satan, ni à l'être humain lui-même. Les pharisiens et les hérodiens ont-ils compris cet appel à la conversion que leur lance Jésus ? On ne peut pas se prononcer. En tout cas, la parole de Jésus nous indique comment vivre notre double citoyenneté, loin de l'amour de l'argent, qui est adoration de mammon, loin de la révolte ouverte contre l'autorité en vigueur, mais aussi loin de la soumission servile à quelque pouvoir que ce soit. Les serviteurs de Dieu nous montrent l'exemple de la pleine liberté de celui qui n'obéit qu'à Dieu, en face de l'arbitraire politique. Il y a l'exemple de Jean-Baptiste, qui n'hésite pas à dénoncer le péché d'Hérode, ce qui était interdit par la loi de Dieu, et que le roi avait pratiqué. Jean-Baptiste dit la vérité. Cela lui coûte la vie, mais il est un homme libre, il n'est pas enchaîné par le péché. Et puis Jésus, lors de son procès devant Pilate, qui lui dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jésus, prisonnier devant Pilate, est celui qui est l'homme libre, qui affronte le politique et qui est plus libre que le responsable politique qu'il a en face de lui. Cette liberté-là, parce qu'il y a la communion avec Dieu, rendez à Dieu ce qui lui appartient. À Jésus, seul Seigneur, soit la gloire, au-dessus de tous les grands hommes de notre histoire nationale et des anonymes qui ont servi également notre pays, auxquels il va être fait référence, ou il est fait référence en ce 14 juillet. Alors je vous souhaite une bonne fête nationale aux uns et aux autres, malgré tout, et dans cette écoute de la parole de Dieu. Amen.